Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui commence pour ce soir avec un invité qu'on est à la fois très heureux et très honoré de recevoir dans l'émission, puisque nous accueillons aujourd'hui Guillaume Lecointre pour son livre Petit traité d'anatomie superflue, l'évolution à travers notre corps. Alors c'est édité chez Delachaux et Nicelet. Et le livre est sorti en 2024, donc une fois de plus on est à la pointe de l'actualité, mais cette fois-ci de l'actualité scientifique, j'insiste sur le point. Voilà, donc on est très content de t'accueillir Guillaume ce soir pour présenter ce livre. Alors tu es zoologiste, scientifique, hein. Tu es systématicien pour être plus précis, c'est-à-dire que tu es spécialiste d'anatomie comparée, ou tu pourras préciser si je schématise le propos. Tu enseignes au Muséum d'Histoire Naturelle. Et tu nous proposes donc avec ce petit traité d'anatomie superflue une présentation, alors que moi j'ai trouvé extrêmement claire, stimulante, brillante. C'est un livre magnifique avec des illustrations tout à fait remarquables, très bien édité, voilà. Mais c'était surtout un livre qui porte sur un sujet assez amusant, puisque tu t'es intéressé à tous les organes qui, dans le corps humain ou d'autres espèces, n'avaient aucune utilité particulière. C'est-à-dire que t'es parti de cette idée que il fallait en finir avec cette idée que le corps humain était une espèce de mécanisme avec une finalité dans lequel tout avait un but particulier, ce qui évidemment au passage souvent sous-entend que ben il y a eu un concepteur derrière, voilà. Et toi, ce qui t'a intéressé, ben en fait c'est tous ces organes qui ne servent pas à grand chose, voire nous handicap, franchement, on aura l'occasion d'en parler. Alors, est-ce que peut-être tu peux dire en deux mots, qu'est-ce qui t'a conduit, toi, à t'intéresser à ça, en fait, quels sont les enjeux que tu y as vus et le plaisir que tu as eu à présenter, en fait, cette question?
Alors, si je commence par le poétique, après je parlerai du scientifique. Le poétique, c'est que je trouve une grande poésie à l'inutilité. Ça, c'est un sentiment esthétique personnel. Là, je parle pas à titre professionnel, mais je parle à titre personnel. Il y a une grande poésie à l'inutilité, et c'est grâce à l'inutile que quelque part, la vie est belle aussi. L'inutile au sens où nous vivons sous un régime d'économisme, où toute performance est supposée... rapporter de l'argent et être efficace. On vit sous le régime de la performance, et raconter que l'histoire naturelle offre une fenêtre sur la non-performance, ça donne une espèce de respiration, voilà, philosophique. Enfin, je veux pas dire philosophique, pas devant toi en tout cas, mais ça donne une respiration tout court. Donc, du point de vue scientifique, ce qui m'intéresse sur l'inutile, c'est que en tant que systématicien, c'est-à-dire scientifique des sciences de la classification du vivant, au Muséum National d'Histoire Naturelle, en tant que systématicien, je suis intéressé à la façon dont les sciences sont comprises par les publics, nos concitoyens, et c'est vrai que le public transporte avec lui, sans le savoir peut-être, hein, un héritage théologique, où l'harmonie est un thème majeur. Ça nous a été vendu par l'ensemble des monothéismes.
Hein. Un certain nombre de philosophes aussi.
Oui, aussi, oui, tout à fait. Oui, le monde est harmonieux, la nature est bien faite, Et chaque chose est à sa place. Rappelez-vous de Voltaire qui se moquait du finalisme au XVIIIe siècle, hein, qui disait que tout étant fait pour une fin, tout est fait nécessairement pour la meilleure fin possible. Et donc, nous regardons notre propre anatomie, un peu comme ça. Tout doit servir à quelque chose.
La nature ne fait rien en vain.
Voilà. Et ça, c'est un premier point. Mais si on ajoute à ça une couche supplémentaire, qui est que quand on considère un corps qui ne fonctionne pas bien comme un corps malade, la médecine nous aide, heureusement d'ailleurs. La médecine est là pour soigner ce qui ne marche pas. Mais la médecine a fonctionné pendant longtemps sur un corps qui est normé. Et donc la variation naturelle des corps, et des corps humains en particulier, a longtemps été occultée dans les études médicales. Et la médecine elle-même, en n'ayant rien appris des sciences de l'évolution, parce que je ne dis pas que les médecins sont ignorants de cela, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'évolution, encore aujourd'hui, dans la majorité des cursus des futurs médecins, l'évolution n'est pas enseignée, l'évolution du vivant. Et donc, il n'y a pas de fenêtre possible sans évolution sur la compréhension de l'inutilité. Il y a des organes que les médecins traitent de variations asymptomatiques quand ils utilisent un terme relativement neutre, et sinon, ils appellent ça une anomalie, en fait. Et il faut savoir que lorsqu'on est un biologiste nourri de la théorie générale de la biologie qui est la théorie de l'évolution, on doit porter son regard sur la variation, parce que la variation, c'est le carburant de l'évolution. Il faut accepter de voir la variation dans les corps humains, et en effet, les corps humains varient. Alors, excusez-moi de vous dire des choses que vous savez déjà, il n'y a pas deux personnes dans cette ville qui ont le même visage. Bon, d'accord, on le sait bien, mais sommes-nous prêts à l'admettre ? Dans l'anatomie humaine. Je parle même pas des variations génétiques. Ça, à l'école, c'est enseigné, on l'accepte. Mais qu'il y ait des variations dans l'anatomie, d'où le titre, hein, petit traité d'anatomie superflue, qu'il y ait des variations dans l'anatomie, on ne nous le montre pas, et surtout, on ne nous en montre pas la signification. Or, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Parce que, justement, il est croustillant. C'est à travers ce qui ne sert pas, les petites variations qui ne servent pas, ou des organes qui, lorsqu'ils ne sont pas là, bah, la personne ne s'en porte pas plus mal. Imaginez votre sternum à l'avant de votre thorax.
Oui, Davano, tu parlais de des variations, tu dis effectivement qu'on n'a pas tous le même visage, et j'ai appris effectivement qu'on n'avait pas forcément non plus tous le même nombre de tétons, par exemple.
Oui, oui, il y a des variations sur le nombre de tétons à la surface du thorax, oui, tout à fait. Oui. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas... Alors, parlons de variations, là, pour le coup. Il y a des variations asymptomatiques, comme, par exemple, 3% des personnes qui n'ont pas la 12e paire de côtes et qui ne s'en portent pas plus mal. Ou quelque chose comme quelques pourcents, il faudrait que je revoie mes chiffres, mais cette petite pointe osseuse au bout inférieur de votre sternum, dois-je dire le nom scientifique de cette pointe? Alors, je le dis, mais vous l'oubliez tout de suite. Le processus xiphoïde du sternum.
Bon, on a oublié, vas-y,
Cette petite pointe-là, elle a une forme variable, et lorsqu'un organe a une forme variable, c'est déjà un indice que ça ne va pas servir à grand-chose. Et en effet, c'est de l'ordre de 5% des gens qui n'ont pas cette petite pointe, et ils ne s'en portent pas plus mal. Donc, il y a des variations sur le corps humain, d'organes qui, lorsqu'ils naturellement ils ne sont pas là, ne sont pas problématiques. Leur absence n'est pas problématique. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une fenêtre sur l'évolution? Parce que, en réalité, si on regarde bien le livre, tout le corps humain, quand on le compare à d'autres corps biologiques, le corps biologique d'autres espèces, tout le corps humain parle de l'histoire du vivant. L'humérus. L'homologue humérus. L'humérus date de 420 millions d'années. C'est pas le vôtre, bien sûr. Votre humérus, à vous, il a votre âge. Mais un chat aussi a un humérus. Un chien aussi. Un poulet a un humérus. Un lézard a un humérus. La salamandre, enfin bref. Donc, on comprend bien qu'il y a cette idée que des organes se correspondent les uns les autres à travers la diversité des espèces et qu'on peut dater l'origine de ces organes dans la profondeur du temps. Du temps de l'évolution, en fait. Et donc, il y a des organes qui servent et qui peuvent être datés et qui ont une fonction, mais comme ils ont une fonction, nous les voyons seulement à travers le prisme de leur utilité et on oublie le fait qu'ils ont une histoire.
C'est complètement fascinant. Effectivement, dans ton livre, ouais. Je me permets de te couper là, ouais. Mais effectivement, on en va en reparler après, mais c'est vrai que il y a cet effet, en fait, tu montres effectivement et tu prends au sérieux cette idée que C'est l'évolution qui donne le sens d'un organe, le sens qu'on doit lui donner d'une certaine manière, et qu'effectivement le fait de l'enfermer dans une fonction ou dans une place, une position, etc., ne permet absolument pas de comprendre la signification en termes de cet organe dans le vivant que nous sommes, ou dans les vivants parmi les vivants.
C'est vrai que
ça
c'est très fort. La fonction va isoler l'utilité de l'organe pour le corps humain, mais ne va pas tellement aller plus loin dans la signification ou l'origine de cet organe parmi les vivants, la diversité des vivants dont nous faisons partie, justement. Alors, la fenêtre, justement, des organes inutiles, pourquoi cette fenêtre-là? Parce que, justement, je reviens sur la réponse à la première question du point de vue scientifique, les organes inutiles sont ceux, parce qu'ils sont inutiles et donc il n'y a pas de fonction, on n'est pas occulté, on n'a pas les yeux bandés par la fonction, et on peut enfin apporter son attention sur l'histoire, car seule l'histoire peut expliquer certains de ces organes, alors, dont certains sont constants. Par exemple, nous avons tous 3 muscles du pavillon de l'oreille et nous ne remontons plus les oreilles depuis 25 millions d'années.
Je connais des gens qui sont capables.
Voilà, on me le dit à chaque fois. Oui, alors, en effet, il peut y avoir un résidu de mobilité chez certains humains. Alors, revenons sur la variation. Quand un organe commence à varier sérieusement dans le service qu'il va rendre au corps, si je peux le dire entre guillemets comme cela, ça veut dire que il y a du branle dans le manche, permettez-moi l'expression, mais il ne doit plus servir à grand-chose, et la majorité des gens ne remuent pas les pavillons de l'oreille, en effet. Par contre, si vous regardez... Vous sortez des primates, si vous regardez un chat, un chien ou un cheval, la mobilité des pavillons de l'oreille non seulement participe de l'efficacité de l'audition, mais pas seulement, ça indique aussi l'humeur de l'animal à l'égard d'un congénère. Si vous avez eu votre chat vexé ou votre chat en colère, vous avez compris, vous avez tout de suite vu que c'est pas à travers les yeux que votre chat vous montre qu'il est pas content, c'est à la position de ses pavillons de l'oreille. Le chien, quand il est intéressé, hop, il va redresser les oreilles. Et donc, en effet, cette mobilité du pavillon de l'oreille chez d'autres espèces, il peut, au passage, ça nous enseigne quelque chose, c'est qu'à une même structure, il peut y avoir plusieurs fonctions, ça aussi, faut quand même le dire. Je ferme la parenthèse. Cette mobilité du pavillon de l'oreille chez les primates, 25 millions d'années, on ne remue plus. Chez certains primates, comme les singes vrais, on ne remue plus les pavillons de l'oreille, et nous avons hérité de cette condition. Donc, pour résumer, les pavillons de l'oreille datent déjà de 220 millions d'années, c'est quelque chose qui est propre aux mammifères, mais seulement chez les singes vrais, les simiformes dont nous faisons partie, du point de vue de la zoologie, nous ne remontons plus les pavillons de l'oreille. Alors il y en a 12 comme ça, des constants. Il y en a une douzaine comme ça, que nous avons tous, et puis il y en a une bonne trentaine que nous n'avons pas tous.
Mais du coup, effectivement, tout ça, ça invite à changer effectivement de lunettes quoi sur l'organisme, en particulier l'être humain. Effectivement, comme tu dis, c'est non seulement il n'y a pas de fonction, mais t'as commencé par parler effectivement de l'approche esthétique. On a tous en tête ces idées, ces planches, Léonard de Vinci, les proportions, etc. Et il y a aussi ça, il y a cette idée que ton livre, il apprend aussi à regarder un organisme effectivement non seulement avec ce qui ne sert à rien, mais ce qui est là et ce qui finalement n'a pas de signification. Particulier, je pense au le téton mâle, par exemple, effectivement. Mm-hmm. Alors, esthétiquement, oui, ça peut avoir un sens, mais en fait, du point de vue de la fonction, ça n'en a pas, ça c'est clair. Et le fait de faire tomber ça, effectivement, ce regard qu'on a hérité, ça déplace aussi beaucoup de choses. Alors, tu cites aussi d'autres exemples, le câblage des nerfs optiques, par exemple, l'appendice, évidemment, ça c'est aussi connu, les vertèbres surnuméraires, t'en as parlé, la chair de poule aussi, tu peux nous dire un petit peu.
Oui, la chair de poule est héritage. Ouais. Deux remarques sur la chair de poule d'abord, ouais, et sur le téton masculin ensuite. Ouais. La chair de poule, là on a vraiment l'image de l'héritage historique, c'est-à-dire que ce réflexe de l'eurépilation des poils qui est acquis à l'origine des mammifères il y a 220 millions d'années, c'est l'époque où la fourrure se met en place chez les animaux à quatre pattes. Et cette fourrure, lorsque ça apparaît chez des animaux qui font leur chaleur, ce qui n'est pas le cas d'un lézard ou c'est pas le cas d'une tortue, ils sont obligés de s'exposer au soleil pour se réchauffer, tandis qu'un mammifère, il fait sa chaleur lui-même, un oiseau pareil. Et chez les mammifères d'un côté et chez les oiseaux de l'autre, lorsqu'il fait froid, il y a un mécanisme qui se met en place chez eux, c'est l'érection des fanères. Les fanères, ce sont les poils, les productions épidermiques, hein, la surface de la peau, les poils chez les mammifères ou les plumes chez les oiseaux. Et quand on érige les fanères, on emprisonne plus d'air entre la surface de la peau et la surface des fanères, ce qui fait qu'on augmente le pouvoir isolant du manteau, en quelque sorte. Et donc, la fourrure qui se gonfle quand il fait froid, c'est un réflexe on peut l'apprécier comme un réflexe de conservation de la chaleur, quelque part. Et nous avons gardé ce réflexe, nous avons toujours des muscles répilateurs du poil, seulement voilà, notre fourrure, depuis quelques millions d'années, peut-être 300 000 ans, peut-être 1,5 million d'années, cette fourrure est devenue extrêmement éparse. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'héritage historique. C'est une contrainte historique. Le muscle est toujours là, mais il ne sert plus à rien en termes thermiques, ça ne sert plus. Et pour le téton, c'est encore un autre prisme par lequel on peut rentrer. C'est ce qu'on appelle la contrainte de construction. Quand un organe doit être interprété scientifiquement, il faut regarder son pôle fonctionnel. Bien sûr qu'il y a des organes qui servent à quelque chose, personne ne le nie. Il y a le pôle historique, je viens de l'évoquer, et il y a le pôle de construction qui, lui, nous raconte que on peut lancer une dynamique de construction embryonnaire avec des contraintes physico-chimiques, et que ce chantier qui est lancé, il n'y a plus de crédit, il n'ira pas au bout.
Okay.
La fac de Jussieu, pendant des années, pardonnez-moi une métaphore, mais pendant des années, la fac de Jussieu, à l'arrière, il n'y avait que des parpaings. On avait prévu une grille au départ, et puis il n'y a plus de crédit, alors on arrête le chantier. Là, c'est pareil. Le téton masculin, comment peut-on comprendre qu'un téton sur un corps masculin puisse avoir une fonction? Sait-on seulement poser la question? C'est pas le sexe mâle qui allait, en effet, c'est le sexe femelle. Et donc, voilà une énigme qui n'en est pas une, c'est que le développement embryonnaire de ce téton démarre avant la fin de la différenciation sexuelle. Le téton va rester dans un développement arrêté jusqu'à la naissance. Et puis il en restera là pour le garçon. Par contre, côté fille, la croissance de cet organe ne reprendra qu'à la puberté et évidemment lors de la parturition de l'allaitement, l'organe trouvera chez les femelles son plein fonctionnement. Mais le mâle va garder quelque chose qui est resté embryonnairement très en amont, quelque chose qui ressemble à un chantier arrêté, quoi.
Okay.
Ça, c'est ce qu'on appelle une contrainte de construction et ça permet aussi de rendre compte d'un certain nombre d'organes qui ne servent à rien.
Ok. Bon, on va faire une première coupure, une première pause musicale, et puis on va reprendre après sur ce propos passionnant.
Da 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 da.
Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui reprend sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Jeudi Noir qui a le plaisir d'accueillir ce soir Guillaume Lecointre, zoologiste et systématicien, autour de son petit traité d'anatomie superflue, paru en 2024 chez Delachaux et Nisley. Alors Guillaume, tu nous expliquais dans la première partie de l'émission comment la science nous apprenait finalement à voir le corps humain du point de vue de l'évolution du vivant et non pas à partir de fonctions ou de buts ou de finalités qu'on pourrait attribuer à tous les organes comme si c'était un aboutissement d'un projet initial. Le point de vue esthétique aussi il fonctionne pas en fait, ça, les organes qui ne servent à rien, et il y en a un certain nombre, tu nous en as parlé dans la première partie de l'émission, nous apprennent à penser en fait l'organisme, le corps humain, du point de vue de son évolution, du point de vue de sa position. Alors tu as évoqué dans la première partie un certain nombre d'exemples d'organes qui sont superflus, qui n'ont pas d'utilité particulière, mais on peut même aller plus loin parce que dans ton livre tu présentes aussi un certain nombre de cas d'organes qui non seulement ne servent à rien, mais même représentent un handicap, ce qui évidemment enfonce le clou sur l'idée qu'il n'y a pas de projet derrière, ou de finalité, ou d'utilité systématique pour les différents organes qui composent le corps humain. Alors sur ces organes handicapants, là, effectivement, qui sont contre-intuitifs quoi à première vue, comment on peut comprendre ça?
Le cas des organes que nous possédons et qui créent des problèmes, oui, ils sont handicapants, disons-le, ils peuvent l'être en tout cas de temps en temps, montrent bien que le processus de l'évolution mène à des compromis et pas à des perfections. D'ailleurs, entre nous, la perfection n'est pas une notion scientifique, c'est une notion de valeur qu'on jette sur des êtres vivants, mais rien n'est en nature, rien n'est jamais parfait. Même si nous pouvons être éblouis, mais c'est un sentiment esthétique, l'éblouissement. En fait, quand on regarde le vivant avec un œil scientifique, on se dit, ça marche plus ou moins bien, et puis ça le fait avec, quoi. Alors, ça le fait avec, par exemple, notre carrefour aéropharyngé, qui est le fait que, chez l'espèce humaine, le pharynx est extrêmement haut, et il est haut parce que ses parois permettent une phonation extrêmement complexe, avec des émissions de sons très finement modulés, ce qui permet d'ailleurs un langage lui aussi finement modulé, assez sophistiqué. Chez les oiseaux, ça se passe autrement. Il y a aussi de la modulation sophistiquée, mais ça se passe pas avec le même organe. Enfin, laissons ça de côté. Cet organe très haut fait que produit ce résultat étonnant que nous sommes la seule espèce à pouvoir s'étouffer en mangeant. Et chaque fois que vous êtes au restaurant ou avec
la fausse route, comme on dit.
La fausse route, voilà. Mmh. Chaque fois que vous êtes au resto, vous prenez des risques et vous ne le savez pas. vous risquez d'envoyer la bouchée alimentaire que vous venez de mâcher, de l'envoyer dans la trachée au lieu de l'envoyer dans l'œsophage. Si jamais il y a le réflexe, cette trachée évidemment, elle reste pas ouverte. Il y a un clapet qui se ferme de manière réflexe. Mais si jamais il y a une mauvaise coordination du réflexe, il y a quand même un risque d'envoyer la bouchée dans la trachée. Et là, obstruction de la trachée, vous ne pouvez plus prendre de l'air dans les poumons. Et donc, c'est l'étouffement. Ça se produit majoritairement côté nouveau-né ou côté personnes âgées, au moment où les réflexes sont plus tellement aussi vifs, et puis peut-être que les tissus se ramollissent aussi. Mais néanmoins, toutes les tranches d'âge peuvent mourir de ce qu'on appelle une fausse route au restaurant ou ailleurs. Ça s'est vu, on est sur des 400 morts par an aux États-Unis. Bon, alors évidemment, les États-Unis d'Amérique, c'est quelque chose comme 300, si je me souviens bien, 340 ou 390 millions d'habitants. Je ne sais plus très bien, mais enfin, on est sur cet ordre de grandeur-là. Et ce carrefour aéropharyngé fonctionne un petit peu comme quelque chose, un compromis, c'est-à-dire que l'avantage de cette phonation accrue, évidemment, il réside dans l'organisation sociale de notre espèce. L'inconvénient, il ne tue pas suffisamment d'individus pour que l'espèce en disparaisse. Et c'est ça, cette notion de compromis. Et en évolution, nous pensons quelque chose qui est fondamental en science, c'est que le fonctionnement apparent, ou l'ordre apparent, ou la régularité du fonctionnement, ne vient pas d'un instructeur. ça vient simplement d'un cimetière invisible. C'est-à-dire que les choses marchent parce que tous les individus du lignage chez lesquels ça n'a pas marché, bah, ils sont plus là pour qu'on en parle, en fait. Mmh. Ça, c'est une idée très puissante qui avait été fournie par le physicien Pierre-Louis Moreau de Maupertuis au XVIIIe siècle, qui avait été, en tout cas en langue française, l'un des premiers à apporter cette idée que s'il y a un ordre apparent ou des régularités apparentes dans la nature, ça vient de combinaisons fortuites dont les seuls qui sont propices à leur propre reproduction arrivent à se maintenir jusqu'à nous. Et c'est pour ça que le monde tel qu'on le voit marche. On ne voit pas tous les morts derrière. Hein. Donc il n'y a pas d'instructeur qui dit que ça va marcher, j'ai pas construit le truc comme ça. Tous ces petits dysfonctionnements, ils viennent de là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de morts pour que finalement... Ouais. L'espèce disparaisse, alors on se trimballe nos petits handicaps.
Il n'y a pas de sélectionneur derrière la sélection naturelle.
La sélection naturelle crée des compromis, en fait. Elle crée pas des perfections, ouais. Et dans ces petits tracas, comme il y a aussi, par exemple, un héritage historique qui est la perte de la synthèse de la vitamine C. On s'en était pas aperçu jusqu'à ce que des gens se mettent à voyager sur des bateaux pendant plusieurs mois. C'est-à-dire, en gros, à partir de la fin du 15e siècle, 16e siècle. Un mal étrange surprend les marins sur les bateaux au long cours. Hein. Là, c'est sur des siècles où on se lance sur les océans. On passe plusieurs mois sur les bateaux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, les gens tombent malades. Ce mal-là, il n'a pas de nom. Il a un nom, c'est le scorbut. Et en fait, à bord de ces bateaux, il n'y a pas de nourriture fraîche et l'acide ascorbique n'est pas présent dans la nourriture. Or, cet acide ascorbique, nous ne savons plus, nous, Homo sapiens, le fabriquer. Et même la plupart des primates ne le fabriquent plus non plus. Et notre origine, on la doit à des animaux arboricoles et folivores et frugivores. Les primates, à leur origine, sont des animaux qui vivent en forêt. Et toute ressource alimentaire de plantes fraîches contient de l'acide ascorbique. Être privé de biosynthèse, tout ça par mutation aléatoire, hein, être privé de biosynthèse d'acide ascorbique, ça n'est pas délétère lorsque, dans son environnement, on dispose de fruits ou de feuilles. Seulement voilà, jusqu'au 17e, au 18e, au 16e siècle, pardon, où sur les bateaux, on s'aperçoit que ça fâche. Hein. Mmh. Donc voilà, c'est handicapant dans certaines circonstances, pas dans toutes les circonstances. L'équipement métabolique pour terminer. Certains médecins évolutionnistes disent que l'épidémie d'obésité proviendrait d'une maladaptation, c'est-à-dire que nous sommes équipés en termes génétiques depuis au moins 200 000 ans d'une époque de chasseurs-cueilleurs à des périodes de carence alimentaire. Et donc tant que nous mangeons, nous stockons de la graisse parce que la ressource alimentaire à l'époque était disparate, n'était pas régulière. Nous aurions gardé cet équipement génétique, mais tout à coup basculé dans un régime d'opulence alimentaire brutale en seulement un siècle et demi. Et cette opulence alimentaire avec des circuits de récompense qui vous disent dans votre cerveau continue à manger parce qu'il faut faire des réserves et que c'est bon de continuer. En fait, on en vient à cette épidémie d'obésité qui est interprétée par certains comme une maladaptation d'un bagage génétique de l'espèce humaine à une époque où, entre nous, une époque exceptionnelle, hein, l'opulence alimentaire dans laquelle nous sommes actuellement, elle n'a pas 200 ans.
Ouais,
elle n'a pas 200 ans, ce qui est une goutte d'eau hein, en termes évolutionnistes. Hein,
Alors, peut-être un dernier petit point. Alors, est-ce que c'est sur tu as un passage aussi sur le cerveau, en fait, sur la. Et alors, là, j'ai pas compris comment tu l'intégrais à ton propos sur le fait que. Le fait qu'on ait un gros cerveau, le fait que le gros cerveau ne doit pas être compris non plus comme une espèce de finalité implicite de la sélection naturelle, mais t'expliques ça, enfin tu fais part en fait des hypothèses qui sont avancées maintenant sur le fait que en fait le fait d'avoir un gros cerveau s'explique par le fait qu'on naisse avec un petit cerveau et qu'on a besoin de gros cerveaux pour s'occuper de nouveau-nés qui naissent avec des petits cerveaux. Ça m'a beaucoup plu, en fait tu viens d'expliquer ça, mais parce que c'est aussi une manière d'expliquer les logiques de coopération ou de solidarité intergénérationnelle dans le cas de l'espèce humaine. C'est sans doute pas la seule, je pense, tu diras, mais en fait, dans le cas de l'espèce humaine, c'est assez clair. Donc, en fait, quelque chose qui est de l'ordre du comportement de coopération mutuelle par un mécanisme qui est celui de l'évolution, pour le coup, toujours le même. C'est-à-dire, c'est pas un projet, c'est pas une espèce de doigt de Dieu qui aurait élu telle ou telle espèce et qui l'aurait doté de capacités spéciales que les autres n'auraient pas. Mais en fait, on peut aussi, du point de vue des conditions matérielles, physiologiques, dans lesquelles naissent les nouveautés, faire des hypothèses pour expliquer pourquoi le cerveau est si gros à maturité, à l'âge adulte.
Ça vient d'un autre, handicap, handicap, entre guillemets, une difficulté de notre espèce, mais qui pourtant ne l'a pas fait disparaître, c'est la difficulté de la parturition. Alors la parturition, c'est chez les animaux ce qu'on appelle chez nous l'accouchement. Hein. Nous sommes l'espèce animale qui meurt. En tout cas, bon, allez, soyons chez les vertébrés. En tout cas, nous sommes l'espèce qui meurt le plus de son, enfin, dont les femelles meurent le plus de leur accouchement statistiquement à l'échelle de la population. Alors, puisqu'on parle de parturition, parlons de mammifères. Allez, il s'agit des mammifères. Nous sommes l'espèce de mammifères dont l'espèce, enfin, dont les femelles meurent le plus de leur parturition. Et ça, on le doit à une double contrainte, une contrainte de construction et une contrainte historique. Contrainte historique, il y a à peu près 6 millions d'années, 6,8 millions d'années, dans notre lignage, la position bipède est au début transitoire, devient de plus en plus permanente, jusqu'à être permanente complètement. Et ça, ça se passe à un moment où le volume céphalique n'est pas encore aussi gros qu'il l'est aujourd'hui. Si on est, par exemple, à l'époque des Australopithèques, chez l'adulte, on est à peu près on est à 500 cm3 de volume céphalique chez l'adulte. La tête du bébé passe facilement dans les voies génitales femelles lors de la parturition. Pas trop de problèmes non plus dans les branches primates en amont. Hein, chez un chimpanzé, un gorille, il n'y a pas spécialement de problème à la parturition. Par contre, il y a 2 millions d'années, donc après cette bipédie, après l'émergence de cette bipédie permanente, tout à coup le volume céphalique se met à grimper. En 2 millions d'années, il va tripler de volume chez l'adulte. On passe d'à peu près 500 cm3 à 1300 chez nous, voire même 1500 chez Néandertal. Et donc il y a cette envolée du volume céphalique qui fait que on va jusqu'au bout de la contrainte, c'est-à-dire que l'héritage historique va contraindre le volume céphalique à passer dans un bassin qui, lui, contrainte de construction, ne peut pas s'écarter davantage en partie inférieure, parce que le bassin continue de porter la masse du tronc, des bras et de la tête. Donc le bassin est évasé en partie supérieure chez nous, et il est étriqué en partie inférieure. Et la bipédie apporte une contrainte de construction. Et il y a une contrainte historique qui est cette bipédie elle-même apparue à une époque où il y a une petite tête. Et nous voilà avec une grosse tête devant passer dans un bassin contraint. Alors, pour revenir à ce que tu disais, justement, cette parturition difficile, elle va reporter, après la naissance, une grosse partie du développement du volume céphalique. Chez un chimpanzé, on double le volume céphalique en 4 ans. Après la naissance, alors que chez l'humain, on va quadrupler le volume céphalique en 7 ans. C'est-à-dire qu'on va reporter une grosse partie de la croissance cérébrale après la naissance. Ce qui explique que les bébés naissent très immatures chez nous. D'ailleurs, chez tous les primates, il y a une corrélation entre l'immaturité du bébé, le temps du sevrage et le volume céphalique au stade adulte. C'est-à-dire que plus un adulte a un volume céphalique de grande taille, plus le jeune naît immature et plus le temps de sevrage est long. Cette boucle, elle existe aussi chez d'autres primates que chez les nôtres, mais chez nous, elle est exacerbée. Pour s'occuper d'un jeune très immature, il faut être cognitivement développé. D'ailleurs, c'est lié aussi à l'évolution sociale. J'y reviendrai dans un instant. Et pour avoir un adulte qui a un gros cerveau, il faut qu'il ait reporté postpartum une grosse partie de sa croissance céphalique. Donc c'est ce qu'on appelle une boucle sélective qui s'auto-entretient. C'est pour ça que ça décolle à partir de moins de 2 millions d'années. L'origine de notre gros cerveau, c'est une hypothèse de travail, hein, c'est ce qu'on appelle le soin parental, c'est-à-dire que nous avons un gros cerveau dont la première des fonctions cognitives, enfin les capacités cognitives qu'il offre permettent de s'occuper d'un bébé très immature. Et pour être un adulte très cognitivement développé, il faut avoir été un bébé immature pour pouvoir reporter, je dis, c'est des pour entre guillemets, hein, reporter postpartum la croissance du cerveau. Tout ça dans un contexte où l'accouchement chez l'humain est toujours social. C'est-à-dire que cette capacité cognitive, elle n'est pas seulement dévolue à, comment dire, s'occuper seul de son bébé. C'est un soin qui est collectif. Il n'y a pas de femelle humaine que l'on connaisse dont le bébé naît seul. Chez nous, la parturition ou l'accouchement, si vous préférez, est toujours accompagné socialement.
Ok. On va faire une deuxième pause musicale et on reprendra ensuite la troisième partie de l'émission.
C'était lundi, mardi, abruti, les mêmes gestes brisés pour toujours. Coup amer de l'absence sur les lèvres, regard brillant, les perspectives éclatées, solide obsession du laisser aller pour vivre. Dans les belles officines secrètes du pouvoir, vieux fantasmes et nouvelles névroses, rassurer la détresse des poignets tranchés. Les drapeaux empestaient la charogne, les vitres étaient sales comme d'habitude. Le ciel était peut-être bleu, mais sirène hurlait qu'il était déjà l'heure. L'important était devenu secondaire, le sacrifice quotidien. L'esprit du vin gisait inconscient au bout de la nuit, et les mémoires collectives défilaient tranquilles au pas de loi. Même les larmes étaient factices, ils savaient la mort imprimée dans leur corps de fusilé. Ils voulaient faire la foule, leur cœur de béton palpitait à l'unisson. Travail, famille, patrie, à l'amour comme à la guerre. Sommes-nous trop vieux? Cacher se laisser surprendre dans la trame humaine, papillon morné de la débâcle du déjà vu. Ils s'attardaient sans arrêt aux fenêtres de l'exil, leurs bras tendus en guise de symptômes. Ils comprirent vraiment lorsque le mot de la fin embrasa le ciel.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Radio Libertaire 89.4, hein, la voix sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui redémarre pour sa troisième et dernière partie, toujours avec Guillaume Lecointre, zoologiste, systématicien, qui nous présente ce soir son petit traité d'anatomie superflue, l'évolution à travers notre corps. C'est paru chez Delachaux et Nisley en 2024. Guillaume, on parlait juste avant la pause de cette espèce de boucle de sélection qui permet d'expliquer le gros volume cérébral propre à l'espèce humaine, d'expliquer voilà, qu'il y a une contrainte, qu'elle est liée à l'étroitesse du bassin, que donc le fœtus, le nourrisson sont en fait à la naissance un cerveau forcément limité en volume, sinon il passe pas, mais qu'en même temps pour s'en occuper il a besoin d'individus adultes qui eux sont capables de faire ça, socialement d'ailleurs tu disais, et donc cette coopération qu'on observe dans l'espèce humaine, notamment au moment des accouchements, de la parturition, elle s'explique aussi du point de vue de l'évolution, non pas par une espèce d'élection divine ou de quoi que ce soit, de quelque chose de cet ordre-là, mais par cette combinaison entre une contrainte historique liée à la bipédie et puis le fait de différer en fait le développement cérébral. Et à l'instant, tu suggérais aussi que du coup, ce gros volume cérébral, il fallait pas le voir, là encore, lui attribuer une fonction de coopération ou de vertu uniquement pédagogique et d'éducation des enfants, puisque c'est aussi en raison, à cause de ce gros cerveau, que les hommes sont aussi si doués pour se faire la guerre. Mais tu disais qu'en fait, du point de vue des scientifiques, il y avait aussi une manière d'expliquer ça par la sélection.
Oui, l'origine des conflits de groupe. Il y a de la violence dans le vivant. Si on accepte de définir la violence comme une relation entre membres d'une même espèce qui meurt, qui produit la mort, enfin qui débouche sur la mort d'au moins un des congénères. Les interactions qui provoquent donc la mort d'un des deux, ou de plusieurs. On trouve ça chez les animaux, ça a été bien regardé dans un article qui est paru dans Nature en 2016. On a regardé la distribution de la violence létale chez tous les mammifères, et on s'aperçoit que cette violence létale, elle est à des taux très hauts lorsque les espèces sont à la fois sociales et territoriales. Donc si vous combinez la socialité et la territorialité, ça fait des conflits soit des conflits individuels. Chez les marmottes, c'est typique. La plupart des causes de décès des marmottes, c'est même pas le parasitisme, hein, c'est le fait que les marmottes s'entretuent pour ne pas avoir un autre terrier à creuser. C'est très bien documenté. Les marmottes sont pas si mignonnes qu'on le croit, mais il y a aussi les conflits de groupe. Alors les groupes, d'abord l'émergence de la socialité, ça Darwin en parlait en 1871, hein, dans la filiation de l'homme. C'est pas très difficile à comprendre. En certaines circonstances, pas toutes circonstances, mais en certaines circonstances, les individus, les membres d'une même espèce captent davantage de ressources lorsqu'ils coopèrent à la captation des ressources qu'ils n'en auraient s'ils faisaient seuls. Typiquement, les chasses collectives de certains carnivores de la savane s'expliquent comme ça. Les licaons ou les lionnes tuent ensemble des proies plus grosses qu'ils ne tueraient si les prédateurs restaient isolés. Ouais. Et donc, par tête, il y a plus de calories par tête, si je le fais court, hein, que si on ne coopérait pas. C'est comme ça que de proche en proche, il y a une origine naturelle de la socialité qui se met en place, pas que chez les mammifères. Il y a pas mal d'exemples chez les insectes aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, la coopération, c'est vraiment, chez Darwin, une émergence de la sélection naturelle. En certaines circonstances, les individus s'en sortent mieux dans le lignage, on meurt moins si on coopère qu'on ne mourrait si on ne coopérait pas.
Ça veut dire que coopération, ouais, c'est pas forcément de l'entraide ou de la solidarité positive. Ça peut, oui, mais si, ça si, peut si. Être aussi pour désinguer.
Alors oui, j'y viens, c'est que voilà. Le groupe, il peut être coopératif en interne, ouais, mais si l'espèce est territoriale, eh bien, ça peut mener à des conflits de groupe. On a là le télescopage de deux tendances sélectives simultanée, c'est-à-dire coopération à l'intérieur du groupe pour se réserver notamment un territoire de chasse, comme chez les chimpanzés par exemple, ou chez les... Enfin, il y a pas mal d'espèces qui le font, les licaons, mais compétition entre groupes pour le même territoire, et là, chez les chimpanzés, c'est très marqué aussi. Compétition entre groupes, donc ça mène à un conflit dans lequel les deux groupes protagonistes ont intérêt au conflit. Et ça, c'est ce qui définit la guerre pour les primatologues, mais pas seulement, pour les anthropologues aussi. La guerre, c'est pas juste de la prédation ou du rapt ou du vol. C'est vraiment un conflit où les deux protagonistes sont intéressés, connaissent les enjeux et sont motivés au conflit. Et une rétrospective de 50 ans de bibliographie en primatologie, avec 473 articles qui ont été analysés, montrent que 2/3 des décès chez les grands chimpanzés, Pantroglodytes, hein, les 2/3 des décès sont dus à des meurtres, enfin à des guerres, quoi. Okay. Donc on a une espèce proche qui est très guerrière, Et puis son espèce voisine, la plus voisine, hein, le bonobo, le petit chimpanzé, bah lui, non. Donc moi, c'est amusant de voir que deux chimpanzés très proches l'un de l'autre, en termes de d'apparentement, le grand et le petit, le grand fait la guerre, le petit fait la bourre, il recrute de l'activité sexuelle pour pacifier... il y a une pacification des rapports sociaux due au recrutement des fonctions sexuelles.
Gloire au bonobo. Alors, je voudrais peut-être poser pour terminer quand même, parce qu'il y a toute la dernière partie de ton livre est là-dessus, sur ce que tu présentes, c'est en fait les outils et les concepts qui sont disponibles aujourd'hui pour les scientifiques, pour expliquer en fait, du coup, on a parlé beaucoup... d'héritage historique, d'évolution naturelle, mais en fait, on parlait d'organes tout à l'heure, en fait, comment on va dater justement l'apparition, l'évolution d'un organe ? Comment vous faites en fait ? Comment vous y prenez ? Parce que c'est en centaines de milliers, en millions d'années, c'est le projet est celui-là, effectivement, de comparer les anatomies et de dater, en fait,
oui. S'il faut. D'ailleurs, il y a eu d'autres livres qui ont parlé de l'anatomie humaine sous l'angle du surprenant, ou parfois même sous l'angle du superflu, mais aucun de ces livres ne date, en fait. Et excuse-moi pour la publicité, mais c'est le seul livre qui date les organes, y compris ceux qui sont fonctionnels. Mais surtout, il date les inutiles. Il date depuis quand l'organe qui chez nous est inutile, depuis quand il existe chez d'autres espèces, et ensuite il date aussi depuis quand chez nous, quand je dis chez nous, dans notre lignage, parce que c'est pas toujours que Homo sapiens, hein, depuis quand il est inutile. Si je vous dis par exemple que chez les singes vrais, les simiformes, on ne se sert plus des trois muscles du pavillon de l'oreille, eh bien, ce pavillon de l'oreille mobile, il date de 220 millions d'années, chez l'ensemble des mammifères, y compris fossiles, mais... ça ne fait que 25 millions d'années chez les singes vrais que cette mobilité du pavillon auriculaire ne fonctionne plus. Alors comment on fait pour dater tout ça ? Eh bien, il y a deux moyens. Il y a d'abord cette entreprise gigantesque qui consiste à reconstituer l'organisation des lignages du vivant au cours du temps. Qui est apparenté à qui ? Alors, quand je dis lignage, on n'a pas accès au lignage directement. Hein. Tout ça, c'est de l'enquête indirecte. La généalogie du vivant, nous ne l'avons pas sous la main. Il n'y a pas de registre d'état civil dans les mairies, comme le disait Charles Darwin. Et donc, il va falloir que nous approchions indirectement les parentés. C'est-à-dire, en gros, si deux espèces partagent des organes en commun, le chat a des poils, le chien a des poils, le chat a des pavillons aux oreilles, le chien a des pavillons aux oreilles... On va dater depuis quand ces structures, en organisant qui partage quoi avec qui, on structure ça de manière hiérarchique, sous forme d'arbre par exemple, hein, une figure géométrique qu'on appelle vulgairement un arbre, mais c'est géométrique. En partie périphérique de l'arbre, eh bien, nous avons les acquisitions, ou les partages si vous préférez, les plus récents.
Les plus récents.
Et en profondeur de l'arbre, plus on remonte vers la racine, ben on a les acquisitions anciennes. L'humérus est plus largement distribué que les pavillons de l'oreille. Exemple, les tortues ont un humérus, mais elles n'ont pas de pavillon de l'oreille. Elles n'ont pas de poils non plus d'ailleurs. On peut comme ça, en organisant qui partage quoi avec qui, en déduire qui est apparenté à qui. Ça, c'est le premier point, parce que ça donne un ordre relatif d'apparition des organes. Hein. On a l'humérus qui apparaît bien avant les poils et avant les pavillons de l'oreiller. Deuxième chose, pour dater de manière... Parce que là, je n'ai daté que de manière relative. Je sais quoi apparaît avant quoi. Mais ensuite, il faut pouvoir mettre une véritable date là-dessus. Alors, on a les fossiles qui aident. On sait que l'humérus est là au moins depuis 420 millions d'années, parce que...
Tu peux dater le fossile.
Voilà, il y a du registre fossile qui montre les premiers humérus. Mais il faut aller encore plus loin en comparant le matériel génétique des espèces actuelles. Nous avons les moyens de donner une fourchette de temps pour le dernier ancêtre commun.
Ça s'appelle l'horloge moléculaire.
Voilà, c'est ça. Alors, j'osais pas le dire le nom, mais on a ce qu'on appelle... c'est un concept, en fait, le concept d'horloge moléculaire. Quand on regarde le même gène chez plusieurs espèces... Nous connaissons peu ou prou à peu près la vitesse d'évolution de ce gène. On sait tous les combien de temps il engrange des mutations, en moyenne. Et bien, si vous avez la quantité de changements entre deux espèces mesurables, simplement en comparant les deux séquences, est-ce que vous avez le taux de changement de ce gène en question, ou de cette séquence moléculaire en question, eh bien, vous en déduisez l'âge du dernier ancêtre commun, ou du moins une fourchette temporelle. Si vous avez la fourchette du fossile et la fourchette de l'horloge moléculaire, les deux fenêtres, les deux fourchettes se recouvrant l'une l'autre, on arrive à préciser les âges des nœuds de l'arbre.
Des nœuds, ouais,
des branches de l'arbre en question. Et donc, c'est comme ça qu'on sait que, une mandibule faite d'un seul os, c'est 220 millions d'années, une mâchoire tout court, c'est 430 millions d'années, etc.
Et donc ça, toute cette branche-là, c'est ce qu'on appelle la phylogénétique.
Oui, c'est ça. C'est ça. Une branche de la systématique,
d'accord,
la science des classifications, qu'on appelle la phylogénétique.
Ouais. Okay. Et qui va et remonte du coup là, parce que il y a des schémas absolument fascinants là dans le livre. Tu me dis si je me trompe, moi j'ai l'image du buisson en tête, ça fonctionne ça ?
Oui, alors il fut une époque où on représentait des arbres du vivant, linéaire, avec un tronc central et avec l'humain tout en haut, un peu comme un séquoia. Vous savez, le séquoia, il a un tronc bien épais là, puis hop, ça part tout droit et puis il y a vraiment un sommet. Ben là, on est plutôt sur un buisson, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas de direction privilégiée dans la représentation qu'il convient de faire du déploiement généalogique du vivant. Il n'y a pas une direction principale, il y a plein de directions propres, des directions divergentes, et chaque lignage mène sa vie, si je peux le dire comme ça. Alors bien sûr, à un temps donné, les êtres vivants sont en interaction, mais quand je dis mène sa vie, j'entends par là, on est à une telle échelle de longueur de temps, on est à une telle échelle, on brasse des millions d'années, hein. On n'est pas à l'échelle des écosystèmes, pas vraiment en fait. Donc oui, chaque lignage fait sa vie, et avec quelques ponts parfois entre les branches, mais c'est plutôt l'image du buisson qui s'impose. Toutes les espèces sont périphériques parce qu'elles sont contemporaines, et elles sont périphériques parce que on ne privilégie dans cette figure aucune trajectoire. D'ailleurs, je ne devrais même pas dire trajectoire historique, parce que la figure dont je suis en train de parler, qui est ce buisson du vivant, il n'est conçu que rétrospectivement. C'est-à-dire qu'on part de la périphérie, en fait. Son parcours, c'est pas du centre vers la périphérie, c'est de la périphérie vers le centre. C'est-à-dire que nous avons reconstruit cet arbre que parce que nous avons rétrospectivement reconstitué les différentes étapes de l'histoire, du présent vers le passé. C'est de la rétrodiction, en fait. On pédale à l'envers. Et ça, c'est un défi pédagogique énorme. Je ne me lance pas là-dessus parce qu'on va dépasser le temps de l'émission, mais c'est un
défi pédagogique. Tu reviendras nous parler de rétrodiction. Guillaume, tu es le bienvenu dans cette émission. On te remercie en tout cas, et on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Donc autour de ce petit livre, de ce livre substantiel, et tout à fait lisible pour les incultes comme moi. C'était donc Guillaume Lecointre autour du petit traité d'anatomie superflue. Vous aurez compris qu'on recommande vivement la lecture. Le sous-titre, l'évolution à travers notre corps. Vous trouvez ça chez Delachaux et Nisley. On se retrouve dans deux semaines. Et on te remercie encore une fois, Guillaume, pour cette
Merci à vous.
Aujourd'hui. Thank you.
Bonsoir, c'est GMC+, Radio Libertaire 89.4 et DAB+. N'oubliez pas de télécharger la souscription, nous avons toujours besoin de votre soutien. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site de la radio, radiolibertaire.org, la grille des programmes et les podcasts des émissions disponibles immédiatement après leur diffusion et pendant 12 mois. N'oubliez pas, vous pouvez également les télécharger car sans doute certaines deviendront des collectors. Vous pouvez également retrouver toutes mes informations sur ma page Yves Jazzlib ou GMC+ sur Facebook. Et vous pouvez m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr si vous avez besoin d'informations sur la musique. Or donc, pour ceux qui suivent ma page Facebook ou qui regardent l'agenda de la radio sur lequel j'insiste, presque toutes les émissions mettent leur programme, il ne vous a pas échappé que nous allons parler de George Gershwin. Alors, j'ai évidemment pris beaucoup de temps avant de vous parler de Gershwin pour une raison simple, c'est que je voulais qu'il y ait une habitude de compréhension du pont qu'il pouvait y avoir entre les musiques dont je parle, Ravel, Debussy, et le jazz. Alors évidemment, Gershwin est l'exemple type même de ce pont qui va les réunir. Et d'ailleurs, vous en parlerai sans doute un petit peu après, il avait rencontré Maurice Ravel, et donc c'est à partir de ce moment-là que il rencontre Maurice Ravel, mais parce qu'il était admiratif, et donc ça se ressent dans son écriture, mais en même temps, comme il vient d'un milieu multicolore, on va dire, il a été quand même habitué aux musiques juives et aux musiques, évidemment, au jazz et au blues. Alors, quelques mots sur sa vie, parce que c'est une vie très brève, malheureusement, vous allez savoir, il est mort affreusement. Donc, il est né Jacob Gershowitz, et il était né le 26 septembre 1898 à Brooklyn, New York, et il est mort le 11 juillet 1937 à Los Angeles. Donc, il était né d'une famille juive pauvre, qui était originaire de Saint-Pétersbourg, et George fait ses débuts comme pianiste d'orchestre à Broadway. Il a un frère qui s'appelait Israël, mais qu'on appelait Ira, donc on voit souvent sur les pochettes de disques George et Ira Gershwin, qui était parolier, qui d'ailleurs, beaucoup de ses chansons ont été reprises par des chanteurs célèbres comme Al Jolson, évidemment, ou Fred Astaire, Ginger Rogers et compagnie. D'ailleurs, il fait partie, Gershwin, de pourvoyeur de tubes absolument incroyable. Les parents de Gershwin vont quitter la Russie tsariste pour se retrouver aux États-Unis et il va y avoir également, au passage, retrouver aux États-Unis une autre fille d'émigrés russes qui s'appelle Rosa Bruskin, qui sera donc la mère de Gershwin, et préférant, comme beaucoup de juifs à l'époque, s'exiler plutôt que de devenir victime des pogroms dans les ghettos. Qui avait été mis en place par le régime du tsar Alexandre III, comme vous le savez. Et donc, Ira Gershwin, lui, est né en 1896 et mort en 1983. Jacob, comme je vous l'ai dit, Arthur, un autre frère, il est né en 1900 et mort en 81, et une sœur, Frances, qui est née en 1906 et mort en 1999, qui est donc la seule fille. Donc là, George, il va adopter le nom de Gershwin, il va américaniser son nom et en fait tout le reste de la famille va en faire autant. Alors l'enfance de George Gershwin, elle est marquée par beaucoup de déménagements à l'intérieur de New York. C'est un enfant qui a beaucoup d'énergie, qui déteste l'école, encore un, et qui n'est pas du tout enclin à l'étude. Et donc jusqu'à 1910, les Gershwin